retour.
Un retour tout en douceur, hein, du bon.
Le retour de Boulevard 102.
On a 11 degrés seulement à Québec, avec un peu de chance. Et si on garde le soleil, ça va peut-être monter à 13 dans les prochaines heures. Il y a un 40 % de probabilité d'averse pour ce soir et la fin de la journée. Il va mouiller cette nuit. Minimum de 10, un 5 à 10 mm de prévu. Des averses qui pourraient se poursuivre en journée. Demain, 11 degrés sous les nuages. Dimanche, ciel variable, maximum de 11 degrés. Et après ça, lundi, on termine la fin de semaine de 3 jours en mode averse et température très basse. Le maximum de 7 degrés est prévu pour lundi, mardi et mercredi prochain. Et lundi, c'est entre 20 et 25 mm de pluie qui sont prévus. C'est vendredi, ça veut dire qu'il y a bien des problèmes sur les routes. Audrey!
Peut-être commencer par un texto qui vient d'entrer. C'est lui, Simon, qui nous dit qu'il y a un camion en panne, voie de gauche sur la 20 ouest, sortie chemin des îles. C'est l'apocalypse, pour reprendre ses propos.
Oui, c'est un 53 pieds, selon d'autres textos, ouais, qui est bloqué là.
Puis ça congestionne pas mal entre Monseigneur Bourget, mettons, et chemin des îles en ce moment, là, si vous êtes sur la 20 ouest. Capitale, direction est, ça se passe entre Henri IV et Laurentienne. Ouest, c'est surtout à la hauteur de Laurentienne que ça ralentit. Robert Bourassa, direction nord, il y a quelques problèmes entre Wilfrid Hamel et la capitale. Charest est, ça se passe surtout entre Henri IV et Robert Bourassa. Parlant d'Henri IV, direction sud, ça ralentit à partir de Charest jusqu'au pont. Même chose pour Duplessis sud. Commence à y avoir quelques ralentissements sur Henri IV nord dans le coin de Val-Bélair à la hauteur de l'avenue industrielle. Ça fait pas mal le tour des grandes artères pour l'instant. Évidemment, si quoi que ce soit d'autre, c'est le 88-971-1021 directement par texto.
Elle revient du pays de la Heineken. Je pense qu'elle a bien des choses à nous raconter. On va jaser de brou, saluer les trois chaloux de la grande région de Québec. Émilie du Chaloux Grand Marché, salut!
Non, pas tout de suite, enlève
ton
auto.
Ah oui, 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 OK. Salut!
Prost!
Comment ça va?
Ça va très bien.
En quelles circonstances t'es allé te promener dans ce coin-là?
On a eu le grand bonheur d'être invité par la famille Molson, donc ils sont un partenaire de Heineken depuis nombreuses années. Donc, j'ai été choyée de faire partie du grand voyage avec plusieurs autres commerçants partout au Québec, hein, que ce soit des grandes surfaces ou des commerces à bière, des pétrolières aussi. Donc, c'est un voyage business, mais grand bonheur aussi, grand plaisir.
Oui, il y a des voyages business qui doivent être un petit peu plus tough que ça. Hein?
Effectivement. Ça dépend. Ça dépend à quelle heure tu te couches, en fait.
Ouais, là,
dans quel état tu te couches.
Moi, en partant, je suis mêlé. Là. Moi, dans ma tête, la Hollande, c'était un pays. Là. Marche plus, ça?
C'est un peu compliqué. Comment je te dirais ça, Denis? Pays-Bas? Ouais. L'Hollande, c'est seulement une province qui fait partie des Pays-Bas. Uh-huh. Puis la capitale est Amsterdam, là où j'ai passé les derniers jours, la dernière semaine.
Puis qu'est-ce qu'ils vous ont fait visiter là-bas? L'usine?
L'usine Heineken Experience. En fait, c'est dans les anciennes installations de Heineken. Donc, la brasserie n'est plus à la même adresse aujourd'hui.
Mais c'est en ville. Moi, je regrette, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, c'est juste une bâtisse en ville. Ça va être plate. Mais là, je pense que j'aurais donc bien dû le faire.
Ah, mon Dieu, je le recommande à tous. Un, je recommande aux gens de faire un petit pit stop à Amsterdam si vous avez l'occasion de le faire. La ville est superbe. Oui, c'est la ville de tous les plaisirs. Là, on a tout le temps l'impression que c'est la grosse débauche à Amsterdam avec le red light et tout ce que tu peux consommer. Mais non, les gens sont sur leurs deux pieds. Il y a un respect mutuel. Ouais.
Tout est beau. Puis les cicatrices, puis l'œil au beurre noir que t'as, c'est pas là-bas. Là. Je veux dire, c'est d'autres choses.
C'est à mon retour. C'est à mon retour, ça. Donc, oui, je vous recommande vraiment d'aller faire un tour là. Heineken Experience, c'est pas rien. Hein. Ils ont mis de l'audiovisuel à travers ça. Tu rentres dans une salle à un moment donné avec tout. Tu vois les ingrédients, tu vois tout passer. C'est vraiment trippant. Là. L'immersion est le fun. Là.
Ça existe depuis combien de temps, ça, Heineken?
1864.
Wow!
Heineken qui a fondé, en fait, il a acheté une petite brasserie, Gérard de son nom français. Il a acheté une petite brasserie locale, puis ensuite, au fil des années, c'est devenu vraiment Heineken. Il l'a mis au nom de sa famille, la famille Heineken là-bas.
Ça fait-tu longtemps que c'est une propriété de Molson?
Hey, bonne question. C'est pas une propriété de Molson, ils sont vraiment le distributeur.
OK, OK, OK.
Molson n'a pas le brassage de la Heineken. Donc, ce que vous avez dans vos verres après-midi, c'est vraiment de la bière qui vient de l'Europe.
Oh.
Exactement. Puis j'ai une petite surprise en finale, une bière que j'ai ramenée de voyage que vous n'avez pas au Canada actuellement. Fait que Heineken, au fil du temps, a vraiment peaufiné ses recettes, travaillé. Il voulait avoir de l'excellence, hein, c'est pas rien. toute façon, on le voit là, dans l'étiquette d'Heineken, on voit que c'est un produit distinctif. Ils sont disponibles dans 192 pays quand même, Heineken, donc 140 ans d'histoire quand même.
Y a bien des choses qui distinguent la Heineken. La bouteille verte transparente en est une.
Son odeur caractéristique.
L'autre, écoute, t'as visité l'usine. C'est comment est-ce qu'ils mettent l'odeur de moufette dedans?
Ils ont-tu un petit enclos?
Mais ils sont en train d'arranger ça. C'est parce que ce spot-là, il est proche des toilettes. Ils sont en train de...
mais en même temps, je veux dire, ça fait partie de l'expérience Heineken, veut pas, là.
C'est la signature, exactement. Ouais. Autant que... puis je me suis informée à la guide qu'on avait là-bas, Joséphine, à savoir, est-ce que... Parce que on retrouve pas le goût skunky dans la canette versus la bouteille.
Ouais.
Évidemment, c'est vraiment la lumière qui vient entrer en contact avec le verre qui va venir transformer le produit. Mais quand vous la goûtez fraîche directement de là-bas, là, vous n'avez pas le côté skunky, le côté moufette qu'on a dans la bouteille. Mais je me suis informée parce qu'il y avait une rumeur qui disait que, parce que c'est son goût distinctif, c'est ce que les gens veulent quand ils boivent la Heineken aussi. Est-ce qu'il y a une manière chimiquement de reproduire ça, de faire une espèce de passage dans une espèce de tube avec de la lumière qui va être pas naturelle, évidemment, pour venir reproduire ces saveurs-là? Elle semblait me dire que non, c'est pas le cas. Mais elle dit, écoute, il n'y a rien qui me surprendrait parce que quand tu as une saveur signature, tu ne veux pas la dénaturer. Il faut que la Heineken goûte toujours la même chose.
Ouais.
Peu importe dans quel pays tu vas, peu importe à quel moment de l'année tu la bois.
Je pense à Sam Adams, ce genre de microbrasserie-là où tu as des bières saisonnières, où tu as des bières de différents types. Évidemment, tu as la Sam Adams qui est traditionnelle, mais tu as quand même beaucoup de produits dérivés. Est-ce que la Heineken brasse juste de la Heineken?
Ben là, premier boire que je vous ai apporté, la Heineken Zero.
Oui,
qui est probablement des produits les plus près de la version originale en version sans alcool.
Absolument, absolument. Ça a fait une montée fulgurante au Canada, la Heineken Zero. Là, honnêtement, moi, c'est dans mes produits préférés. Écoute, de sans alcool.
C'est parce que normalement, si tu recherches un produit sans alcool, c'est que tu recherches le goût d'une bière que tu connais, la sensation d'une bière que tu connais. Personnellement, et de loin, c'est celle qui ressemble le plus à l'original. Puis je viens de goûter les deux back-à-back, puis j'ai pas le sentiment de n'avoir perdu entre
pas une
les...
fraude, non?
Pour vrai, le d'avoir réussi à aller chercher le même goût sans alcool, c'est impressionnant le travail qu'ils ont fait.
Exactement. Puis c'est un procédé que je connaissais pas, honnêtement. Ils ont travaillé, je me suis pris des notes, j'étais là, wow, OK, comment ils ont... C'est une distillation sous vide, donc ils vont tranquillement retirer l'alcool qu'il y a là-dedans, ensuite brasser avec des aromates naturels pour venir rechercher le côté distinctif de la Heineken, puis les saveurs de base qui sont là. Les quatre ingrédients de base sont là, hein, aux levures. Ils ont leur levure signature, levure A qu'ils appellent.
Et quand on dit que l'odeur fait partie de l'expérience, ben tu sais, Heineken, elle a une odeur distinctive. Tu la retrouves dans la bière sans alcool. C'est le deuxième produit qui est la Heineken originale.
Classique.
Goûtez les deux, une en arrière de l'autre, les filles, puis vous allez voir, il n'y a pas une grosse différence. À peu près pas, en fait. C'est ça, la vérité.
Incroyable. Exactement. C'est du génie, c'est bien fait. Mais tu sais, dans le recherche et développement aussi, là, t'sais, déjà dans les années 1800, quand Heineken a démarré, il y avait déjà un souci de faire les choses correctement. Puis ils ont mis énormément de temps et d'énergie, d'argent là-dedans pour travailler le produit de manière distinctive, faire les choses correctement, puis arriver avec quelque chose de propre à eux aussi, puis qu'ils dérogent pas de ça. Ils dérogeront jamais de ça.
Et ça donne, ben, entre autres, le produit original que tout le monde connaît, qui est répandu à travers le monde. Ça doit être une des bières les plus répandues internationalement.
Exactement, absolument. Assez que... Puis, je vous dirais, on est à la quatrième génération de gens à Heineken. Là, c'est une dame qui fait partie du conseil d'administration d'Heineken maintenant. Mais déjà, là, dans les années 50, même les années 30, il y avait le marketing qui était derrière ça. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, c'est correct d'avoir un bon produit. Mais si tu veux pogner le step suivant, il faut que tu aies du monde en arrière qui travaille fort et qui sont allumés. Juste pour la petite anecdote, quand la prohibition a eu lieu aux États-Unis dans les années 30, il y a un des propriétaires d'Heineken à ce moment-là qui s'est dit « Moi, quand la prohibition va terminer, je veux que tout le monde aux États-Unis découvre ma bière. » Donc, ils avaient pacté un bateau, un paquebot pour envoyer la bière de la Heineken à New York. Le bateau a débarqué, la prohibition est terminée, les gens buvaient quoi?
Parce qu'elle était déjà prête,
Puis les gens avaient envie de boire quelque chose de qualité. Ils voulaient pas juste boire de la petite bière cheap. Puis t'es là, hey, oh. Tu sais, fait que pour la première fois, tu buvais de la Heineken tu te sortais d'un 11 ans de
dry, là,
de dry, ouais. De sober October. Ouais. Donc, voilà.
Quelqu'un qui a jamais visité une usine de bière, c'est quoi qui impressionne le plus?
Déjà, l'odeur.
Ouais.
C'est particulier, hein, vous l'avez fait. Je pense, je ne sais pas, Audrey Véro, avez-vous déjà mis les pieds dans une brasserie? Ou,
oui.
Tu sais, l'odeur de la céréale. Mm-hmm. Déjà ça, tu le vas le sentir à des fois, même à des kilomètres, selon les vents, là, des kilomètres à ronde.
Ça saisit, puis c'est pas nécessairement une bonne odeur. Hein?
Effectivement, ouais. C'est de la céréale sucrée. Uh-huh. C'est le mou qui sent ça. Donc, à partir du moment où on travaille le mou, puis on va le chauffer pour faire sortir les sucres qui vont se développer en alcool ensuite. Déjà ça, c'est distinctif toujours. Ce qui impressionne le plus, c'est le volume, l'histoire, tu sais, la quantité de bière, la qualité aussi. Tu sais, j'ai l'impression, on dirait que quand je visitais l'usine Heineken, qu'on sous-estimait cette bière-là. Comprenez-vous?
On,
ouais.
On la prend pour acquis.
Exactement, mmh. Ça.
Elle n'a jamais connu vraiment de période creuse, mais elle est toujours là, elle est tout le temps, tu sais, c'est comme, hello, elle existe.
Oui, puis elle est fiable. Aussi, c'est ben ça, oui. Tu sais, elle va goûter toujours la même chose, tu ne seras jamais déçu. Donc, fait que ça va toujours être ça, de l'innovation aussi à travers ça, de voir comment ces brasseries-là continuent à perdurer dans le marché. Puis, fait intéressant que j'ai lu cet après-midi, les Néerlandais, leur consommation de bière est à la hausse, alors que le marché mondial est un peu plus à la baisse. Mm-hmm. Fait que, tu sais, des fois, là, de revenir aux sources, c'est peut-être un peu ça aussi, comprends-tu?
Je regarde les textos des auditeurs. Est-ce que Heineken brasse la Amstel aussi?
Absolument. Amstel, oui. Si je vous ai apporté ça comme petit souvenir de voyage.
Oh,
alors, Amstel Radler Zero, c'est tellement bon. C'était ma petite bière de marche pendant les vacances.
Ça, il n'y en a pas ici.
Il n'y en a pas, malheureusement. Oh. Aujourd'hui, là, c'est un peu poche là, ce que je vous fais. Là,
souvenir de voyage.
Exactement. Fait que ça sera pour vous. Elle est froide en plus. Fait que si vous voulez l'ouvrir après-midi, ça sera à vous.
Cool.
Oui, fait que Amstel, ils ont des bières de microbrasserie aussi. À Heineken, qui ne sortent pas du pays ou sinon qui vont être distribuées uniquement en Europe.
T'as-tu goûté?
J'ai goûté quelques-unes.
Puis?
Sur place au bar à Heineken aussi, là, c'était très bon. Il y avait une espèce de gauze, une espèce d'hybride avec un bon côté floral IPA. J'ai essayé d'en ramener, j'en ai pas trouvé, malheureusement.
Okay, mais ils vont vraiment là, dans l'expérimental. Tu parles de gauze puis d'IPA. Moi, je pensais pas là, qu'Heineken brassait des choses comme ça. Là.
Absolument. Puis, exemple, Amstel, ben, ça a été un rachat de brasserie, ça. Là. La brasserie existait déjà. Ils en ont fait l'acquisition là, à travers le temps. Mais oui, j'ai vu Heineken dans leur portefeuille produit. Ils avaient des bières d'inspiration belge aussi. Fait qu'ils ont vraiment un peu de tout. Puis sont en train vraiment de comment je pourrais dire, de se mettre, pas se mettre à la page, mais tu sais, de s'adapter au marché, mm-hmm. parce que vous le voyez, on s'en parle tellement souvent, le marché évolue énormément.
Ah, la clientèle est infidèle, on veut des nouveaux produits, on veut suivre les tendances, on veut tout découvrir de nouvelles choses. Fait que c'est le fun d'avoir des classiques, mais si ces producteurs de classiques-là veulent rester in, mais ils n'ont comme pas le choix.
Exactement, puis c'est le troisième produit que je vous ai apporté,
hey, c'est
d'ailleurs.
Quoi, ça? C'est Audrey qui a la canette qui est vraiment magnifique.
Ça, c'est un souvenir de voyage. Là. C'est pas disponible ici.
Non disponible. Heineken Silver, c'est leur tout nouveau produit. Ça fait quand même déjà un petit moment qu'il est sorti là-bas. On la retrouve en Europe. Mais pour l'instant, au Canada, 2025. Oh. 2025, cette bière-là s'en vient. Quatre mêmes ingrédients. Ils ont travaillé avec la même levure, les mêmes céréales que la Heineken classique. 4 % d'alcool. Là, comme on se disait un peu plus tôt, ils ont essayé d'aller chercher une bière avec moins d'arrière-goût.
Oui, l'odeur est disparue. Là. Ouais.
Complètement. C'est sûr que là, elle est en canette aussi. Là. Donc, ça vient jouer au niveau de l'odeur de Skunky qui est un petit peu moins présente. Mais belle buvabilité dans cette bière-là. Une finale très sèche, mais quand même goûteux. Le petit côté un peu céréal, fruité, sucré qu'on sent dans la Heineken aussi.
C'est moins prononcé que la Heineken originale, mais t'as quand même un plein goût. Là. T'as quand même quelque chose là, en dessous du palais. Là.
Donc, comme Véro le dit, ils s'adaptent. Donc, ils veulent aller chercher une clientèle qui est peut-être moins des buveurs de bière en général,
ben,
la
moi,
jeune
vois,
génération.
Celle-là me parle vraiment, vraiment plus que les deux autres.
Ah, la jeune génération,
j'ai jamais été, non, mais j'ai jamais été une tripeuse d'Heineken à la base, pour être bien honnête.
À cause de l'arrière-goût?
Ben,
à cause
l'odeur, là, tout, ça m'a toujours comme d'art. Mais je veux dire, tu me l'offres, mettons, on va chez vous autour du feu, puis c'est ça que tu as à boire, je la bois. Mm-hmm. Là, mais si moi, j'ai à choisir et acheter de la bière, c'est pas celle-là que j'achète. Mais la Silver, je la trouve plus intéressante.
Ça te rejoint plus. Ouais. Mm-hmm. Donc, 90 calories, encore là, 3 grammes de glucides, ils vont essayer d'aller.
C'est la nouvelle tendance aussi. Hein?
Exactement. Donc,
devenir une bière de joueur de hockey, là, qu'on appelle.
Exact, ou marathonien.
Exact.
Oui, c'est ça, ou de marathonien. Ouais, exactement.
Fait que c'est un produit qui va être disponible quoi l'année prochaine au Canada?
2025, exactement. Il aime mieux pas trop se prononcer sur la date, mais oui, 2025, c'est sûr que ça va faire son arrivée dans un chalou près de chez vous.
C'est une belle
certain.
Bière d'été. Je comprends qu'il n'y a pas de date, là, mais.
Oui, oui. Effectivement, oui. Donc, fait que oui, si vous avez la chance de passer par là, Amsterdam, Véro, t'es allé aussi,
oui.
Tu sais.
Puis là, j'ai des regrets de pas avoir fait le Heineken Experience, mais j'ai adoré cette ville-là. Puis tu sais, à base, Amsterdam, c'est un endroit où les gens allaient faire du tourisme de cannabis. Vous comprendrez que nous autres, avec les SQDC, on s'en fout un peu du cannabis là-bas puis des coffee shops. Mais c'est au-delà de ça comme ville. C'est une ville d'histoire. C'est une ville qui, tu sais, c'est une ville qui est créée autour des canaux. C'est quelque chose de tellement singulier. C'est tellement unique. Les grands parcs, la bouffe là-bas, les gens, j'ai quand même beaucoup aimé mon petit séjour là-bas. Fait que si vous allez en Europe, là, un petit croche en TGV ou encore, mon Dieu, les transports aériens sont super bien.
C'est ça que
tu avais
fait, toi?
Oui. Ouais. Moi, l'année passée, j'arrivais à Londres, je passais quelques jours à Londres, TGV jusqu'à Amsterdam, et à 296 km/h, tu fais une petite journée de transport, puis t'es rendu. Puis ensuite de ça, on avait terminé ça à Paris, mais j'avais passé un 4 nuits du côté de Amsterdam.
Je pense que c'est parfait, exactement. Ouais. Puis comme tu le dis, l'espèce de beat de vie et le fun aussi. Ouais. Les gens,
il y a du bicycle au pied carré, en tout cas.
Oser faire du vélo. Honnêtement, là, moi, ça a été une de... Puis le groupe, toute la gang, là, il y avait des gens de tous les âges. J'étais peut-être dans les plus jeunes, je vous dirais, mais tu sais, il y avait des gens plus âgés que moi. Tout le monde a fait du vélo. Les gens ont adoré le vélo.
Y a-tu du monde qui slalomait plus que d'autres? Vous êtes bien reçus chez Heineken, après tout?
La réponse est oui.
Oui, bon, d'accord. Je m'en doutais. Émilie, merci beaucoup.
Dunkerville, comment? C'est les mots que je me souviens.
Lesquels?
Dunkerville, ça veut dire merci.
Ah. Oh, OK.
Oh, wow. Tu veux? Ça me fait plaisir.
Allez faire vos provisions, allez faire votre tour dans les trois chaloux de la grande région de Québec pour la fin de semaine étirée de 3 jours. Émilie, c'est un plaisir de te retrouver. Ça a été très intéressant aussi la semaine passée.
Ma gang de chanceux.
Oui, on a parlé au maître Chai, hein, Audrey?
Le Chai.
Oui. Maître de Chai.
Ah, j'ai réécouté, puis je vous enviais d'avoir la chance de goûter des blends, des assemblages live de même, Moses de chanceux.
Ah, ça a été une Moses de belle expérience. 15h36, on vous souhaite un bon début de week-end. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Puis c'est l'heure, là. Il était vite un petit peu sur la gâchette, les Australiens de Jet. Mais là, on est parti. Première carte de visite, premier album, Get Born. Et c'est resté le sommet de la formation avant leur séparation quelques années plus tard. Are you gonna be my girl, la Boulevard?